بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui le samedi 19 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 7 février 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette rencontre hebdomadaire dans laquelle nous apprenons le Coran al-Karim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le tafsir et d'autres sujets importants de notre religion. Donc on va commencer, inshallah, par la lecture de la deuxième moitié de Sourate Naziat. On va commencer à partir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Donc on va commencer par Yasmin.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، بارك الله فيك.
فأنتم أشد
الاستعاذة، étant donné que tu es la première.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
ما شاء الله، اللهم بارك. Excellent. يعني que ce soit au niveau de la prononciation des lettres, au niveau de l'ronan, au niveau de l'ada, la récitation, tout est excellent, alhamdoulilah. Naam, comment il s'appelle? Zaid?
Oui.
Taïb.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam, wa rahmatullah wa barakatuh. Tafaddali ya Zaid.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى
أعد
وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فين أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
ما شاء الله، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، قراءة طيبة.
Est-ce que ma sœur elle peut réciter?
صفية،
Oui.
comment s'appelle؟
Safia.
Fatima.
صفية.
Fatima.
لا، d'abord c'est صفية après c'est Fatima. يلا تفضلي يا صفية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
أحسنت يا صفية، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب فاطمة.
C'est quoi?
Ah, c'est quoi? T'étais où? أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج
لا لا لا، ليس سي با سا سي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟
تكوني باك سما.
Donc nous, aujourd'hui, on lit que ça. Ça, il y avait une semaine pour le préparer. Donc on va passer au suivant.
Merci.
طيب أبي، تفضلي يا أبي.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأعطش الليلها وأخرج ضحاها، وأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلا ربك منتهاها.
أعد، فيما أنت من ذكراها،
فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو
بحاها. أحسنت يا أيوب، يا أبي، بارك الله فيك. طيب، ننتقل للذي بعده. طيب خديجة.
مريم.
مريم تفضلي، مرحبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجنة هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يرشاها،
من يخشاها
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
ما شاء الله، بارك الله فيك يا مريم، قراءة طيبة. طيب ننتقل إلى أحمد.
أختي تريد أن تقرأ.
ما اسمها؟
خديجة.
خديجة، طيب تتفضل. وبعدها أحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي مأواه فأما ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
أحسنت يا خديجة، بارك الله فيك. طيب أحمد.
وفيك بارك الله.
يا أحمد. طيب زيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. اسمك زيد؟
نعم.
وكم بلغت من العمر؟
8.
8. الله مبارك.
نعم.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم أنتم أشد خلقا أم السماء؟ أن أنتم أشد خلقا أم السماء؟
اسمع يا زيد. أأنتم أأنتم أأنتم
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمقها فسواها طاش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك الضحى.
لو تقرأ بورش والأرض أو والأرض والأرض بعد
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى
اصبر شوي يا زيد لأن الميم، شوف هنا الميم فيها شدة لابد تفعل فيها غنة، تقف شوية تقول فإذا جاءت الطامة الكبرى
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر
أنت تقرأ بورش؟
الإنسان نعم.
ومادام كتقول 8 وهذه يعني كتقرب ورش. اذا الان سنمشي على ورش. طيب الكبرى احسنت.
الكوب يتذكر
يوم يتذكر.
يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وأثر الحياة وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.
هي المأوى.
المأوى.
أحسنت.
وأما من خف ما قام ربه ونهى نفس عن الوهى.
عن الهوى. الهوى.
عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها. لا أعد الآية كاملة.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها.
عن الساعة
أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلى عشية أو ضحاها.
أحسنت ما شاء الله، فعلت جهدا كبيرا، بارك الله فيك ونفع الله بك، لكن ربما ما قرأت في الأسبوع، صح؟ Tu n'as pas lu.
C'est la première fois que je.
Ouais, bah, tu sais, ça devait être la combientième fois que tu lises aujourd'hui? Ça devait être au minimum la centième fois. Et toi, Allah Mabarik, pour voir comment tu as des facilités, rien que de te répéter une fois, tu arrives à lire correctement. Alors imagine si tu avais lu 100 fois, tous les jours tu lis 20 fois, 20 fois, 20 fois, ça te fait mémoriser cette partie en entier, sans la mémoriser. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, tu feras comme ça. Tu vas lire tous les jours 20 fois le passage que nous allons lire pendant cette séance. Et la prochaine fois, ça sera Amma yatasaaloun. Tu lis la moitié 20 fois. D'accord?
D'accord.
Ya Allah, barakallahu fik. Jazakallahu khair. En tout cas, tu as fait un grand effort pour lire correctement, mashallah. Allez, on va passer au suivant, peut-être le dernier. C'était tout à l'heure, il y avait Ahmad qui voulait lire. Taïb, c'est qui a ouvert son micro là? Non, je le vois pas là.
C'est Daoud.
Daoud, tfadali ya Daoud.
Bismillahirrahmanirrahim.
أأنتم أشد خلقا.
أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وإن الجحيم
فإن أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى دونك سي انكرويون
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة
هي المأوى
يسألونك
عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لن يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
ما شاء الله إكسلون اللهم بارك أبلس اللهم بارك عندك صوت جميل لك حظ من اسمك فهمت ماذا قلت الآن؟ لك حظ من اسمك. ها؟ Est-ce que tu as compris؟ ها؟ J'ai dit لك حظ من اسمك. لك حظ من اسمك ça veut dire tu as une part de ton prénom. Et ton prénom c'est quoi؟
Daoud.
Et Daoud, c'est un prophète, alayhi salatu wassalam, Rasoul, Nabi. Et il était connu par une chose. Est-ce que tu la connais? Par plusieurs choses, là, une des choses qui nous concerne maintenant. Naam, là?
Une belle voix.
Une belle voix, naam.
Une belle voix et... S'il connaissait les règles du Tajwid.
Il avait une belle voix, mashallah. Et donc ça, ça te donne une responsabilité à avoir une bonne maîtrise et une belle voix aussi. Chose que tu as déjà, alhamdoulilah. Barakallahu fik. Tayyib, s'il y a quelqu'un, on peut prendre un dernier. Sinon, on va passer au tafsir de cette partie, de ce surah. Tayyib, on va prendre notre ami... Notre cher ami Julaybib, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. S'il veut lire, on va... طيب اسكي يا كلكا
استاذ
نعم
j'ai pas dit je peux lire
t'as quoi
je pourrais lire j'ai même pas lu
طيب تفضل comment je vais savoir t'as pas lu il faut que tu lèves ta main comme ça on saura je t'ouvre le micro et tu peux lire يلا تفضل ما اسمك
عمران
ما شاء الله Toi aussi, ça fait un moment. Et alors, t'fadr.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal-nazi'ati gharqa wal-nashitati nashqa wal-sabiqati.
Là, on a commencé à partir de « A'antum ashaddu khalqan ».
A'antumu
ashaddu khalqan. A'antumu ashaddu khalqan.
أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يفرون المرء من أخيه
يوم فإذا جاءت الطامة الكبرى
يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن
وأما
الساعة أيام
وأما من خاف وأما من خاف
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها
يسألونك
فيما أنت يسألونك عن الساعة أيان مرساها
عن تواتي مكناس سي سا اسكو تابيت مكناس تابيت مراك
نعم
طيب vous étudiez النحو
سي كو النحو
Donc, vous ne l'étudiez pas. Taïb, an, c'est harf jar. Ça veut dire le mot qui va suivre, il aura forcément le kasra. Anis sa'ati. Yes'alounaka anis sa'ati.
Yes'alounaka anis sa'ati. Ayyana mursaha. Fima anta min zikraha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakshaha. Ka'anna yawma yarawna.
Ka'annahum.
كأنهم يوم يرونها
لم يلبثوا aussi si on étudie la science de Nahou on saura que ça peut pas être yelbathuna لأن le verbe à la base c'est vrai c'est yelbathuna mais comme il a été précédé par lam حرف نفي forcément النون sera supprimée donc on dira لم يلبثوا
إلا عشية أو ضحاها
أحسنت ما شاء الله قراءة طيبة جزاك الله خيرا بارك الله فيك تتدي كوا في مكناس ماذا تدرس اللغة العربية
نعم
وإيش آخر؟ تحفظ القرآن؟
نعم أدر الحديث
ما شاء الله لكن اللغة العربية et ça c'est pour vous tous je vais le dire en français comme ça tout le monde va comprendre dans l'étude de la langue arabe c'est très important c'est capital de pratiquer ça sert à rien d'aller étudier la langue arabe et de rentrer à la maison et de parler en français C'est comme celui qui verse l'eau sur le sable. C'est une perte d'énergie et d'effort. Et à chaque fois que vous apprenez quelque chose, pratiquez-la et parlez avec dans votre vie de tous les jours. Comme ça, ça va rentrer, ça va s'ancrer et ça va devenir facile pour vous de parler en arabe. Et forcez vos parents à vous parler en arabe. D'accord ? Barakallahu fiki ya Imran wa jazakallahu khairan. طيب إذن سنكتفي بهذا وسننتقل إلى تفسير هذا القدر من السورة إن شاء الله تعالى تفسيرا ميسرا
دونك
نعم وي كي a parlé
هل أكوكا
جليبيب طيب Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans toujours dans sourate An-Nazi'at il dit a antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaaha Donc Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie ici il montre d'une manière claire un argument évident et un argument fort pour ceux qui renient la résurrection et qui voient que c'est pas possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous crée une deuxième fois après notre mort, ceux qui renient la résurrection, qui ne croient pas en la résurrection, la vie après la mort. Regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit ici. Tout le monde ferme ses micros. Barakallahu. Sauf celui qui veut poser une question, avoir une participation. Sinon, tout le monde ferme le micro. Taïb. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Taïb, j'espère que vous entendez parce que ça a l'air de bugger un petit peu. Taïb. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: A antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaaha. Donc il dit cela à ceux qui renient la résurrection. Il leur dit: Seriez-vous plus difficile à créer que le ciel qu'il a édifié? Allahu Akbar. Est-ce que la création de l'homme serait plus difficile que la création des cieux, les sept cieux superposés, parfaitement bien édifiés? Qui est plus difficile? Donc, qui peut d'entre vous me dire quelle est la taille des cieux comparée? Quelle est la taille des cieux? Qui connaît un texte dans lequel on peut voir, on comprend la taille des sept cieux. Annie, j'ai un problème, Fad. Est-ce que vous m'entendez? Ceux qui entendent, ils font signe. Vous m'entendez? Taïb. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le début de ce verset: A antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaaha. Est-ce que vous, votre création est plus difficile que la création des cieux qui sont parfaitement bien édifiés? Bien évidemment que non, car quand tu comprends la taille de l'être humain comparée au premier ciel de ce bas monde, déjà tu vois que c'est insignifiant. On dira même pas que c'est comme un grain de sable dans un désert extrêmement vaste. C'est insignifiant. Regardez. L'univers en entier. L'univers, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes ces galaxies qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. L'univers, bien évidemment, a une limite. C'est le ciel. Là que les scientifiques d'aujourd'hui, ils ne connaissent pas la fin de l'univers. C'est pour ça, il y en a qui disent l'univers est infini. Mais il n'y a rien qui est infini dans ce bas monde. Tout est fini. Ce qui est infini, c'est dans l'au-delà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers. Et l'univers en entier, notre galaxie, qui est une toute petite galaxie comparée aux autres galaxies qu'on ne connaissons scientifiquement aujourd'hui. Et cet univers dans son intégralité, comparé au premier ciel qu'on appelle Sama Dunya, le ciel du bas monde, le premier ciel qui est en contact avec l'univers et qui est une barrière et un toit pour l'univers en entier. Cet univers comparé à ce premier ciel, c'est comme une bague en fer jetée dans un désert extrêmement vaste. C'est infiniment petit comparé au premier ciel. Et le premier ciel comparé au deuxième ciel, qui est par-dessus, il est infiniment petit. Et le deuxième, comparé au troisième, c'est la même chose, jusqu'à arriver au septième ciel. Et les six cieux, avec l'univers et tout ce qu'ils contiennent, ils sont infiniment petits comparés au septième ciel. Et les sept cieux, ensemble, ils sont infiniment petits par rapport à le Kursi, C'est quoi le kursi?
C'est le trône d'Allah.
C'est le trône d'Allah. C'est le
trône d'Allah.
Naam, il y en a qui
ont...
C'est le trône. Il y en a qui ont dit c'est le trône. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Parce que ce n'est pas la bonne. C'est une erreur très répandue. Le kursi, ce n'est pas l'arche. L'arche, c'est le trône. Même si vous lisez dans certaines traductions le verset du kursi, le verset du trône, ça c'est une erreur. C'est pas vrai. L'arche, c'est le trône. Amma le kursi, c'est autre chose. Qui connaît d'entre vous ce que c'est le kursi?
Chaise.
Le kursi en arabe, ça se dit d'une chaise. Lakin, le kursi, c'est une créature d'Allah qui est différente du trône, déjà. Et ensuite, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le pose-pied. C'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala pose ses pieds. Donc c'est une créature, on ne connaît pas le comment. Ce n'est pas comme un kursi de notre monde. Lakin, on sait que c'est un endroit dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala pose ses pieds. Ça s'appelle al-kursi. Donc les sept cieux, comparés au kursi, sont infiniment petits, comme une bague en fer jetée dans un désert extrêmement vaste. Et après le kursi, il y a l'eau. Et après l'eau, il y a l'arche. Et le kursi, avec les sept cieux et l'univers et tout ça, comparé au trône d'Allah, c'est infiniment petit. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il est plus élevé que son trône, il est plus élevé que toutes ses créatures, et il est plus grand que toutes ses créatures. Vous comprenez maintenant pourquoi Allah dit dans ce verset, « Seriez-vous plus difficile à créer que le ciel qu'il a édifié, ses cieux, comme on vient de voir. Est-ce que c'est ça qui est plus difficile à créer? Bien évidemment, pour l'être humain, quelqu'un qui a construit une gratte-ciel, si tu lui dis, tu ne sauras pas construire une petite pièce de 2 mètres par 2, tu vas le faire rire plus qu'autre chose. N'est-ce pas? Lui, il a construit un gratte-ciel de 50 étages. Et tu lui dis, tu ne seras pas capable de créer une petite chambre de 2 mètres par 2 par terre, au sol. Ben, il ne va pas te répondre. C'est pour ça que Allah Azzawajal nous rappelle ici ce point. Celui qui a créé ses cieux, il ne sera pas capable de recréer l'être humain une deuxième fois, alors qu'il l'a créé déjà une première fois. Et vous savez que c'est la première création qui est plus difficile. La deuxième, en général, elle est facile. Et ça, c'est pour les créatures. Un homme, pour fabriquer un lave-linge pour la première fois de sa vie, il va prendre beaucoup de temps, et beaucoup d'études, et beaucoup d'essais. Lakin, une fois qu'il l'a fabriqué, et que ça fonctionne bien, la deuxième fabrication, des fois, ça prend 5 minutes, quand c'est dans des usines. La même chose pour fabriquer une voiture. Pour fabriquer une voiture, le premier prototype, et ça, c'est quelque chose qui fait partie de ce que j'ai étudié. Yani dans la première fois où on veut fabriquer un modèle, un prototype, ça va prendre des fois 5 ans. 5 ans d'études et d'analyse et de développement et yani de simulation sur des logiciels avant de passer à la pratique et à la réalité et avant de passer encore une fois aux tests finaux pour sortir le produit ensuite. Et une fois que la voiture est fabriquée une première fois et tout est parfait, quand on commence à la fabriquer sur chaîne, il y a des voitures qui prennent dans l'ensemble moins de 10 minutes pour fabriquer une voiture. Moins de 10 minutes. Yani chaque partie est fabriquée ailleurs et tout est assemblé pour donner le produit final. Ça, c'est pour la créature. Mais il faut savoir, mes frères, que pour Allah, tout est facile. Il n'y a pas quelque chose qui est plus difficile qu'une autre pour Allah. Là, il nous dit ça pour qu'on comprenne, yani selon ce que nous, on connaît. Nous, pour nous, quand on fabrique une chose pour la première fois, c'est plus difficile que quand on la fabrique une deuxième, et une troisième, et une quatrième fois. Voilà. Donc Allah, il dit, « أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّهَا dont il a élevé, donc ce ciel dont il a élevé la voûte. As-samk, c'est as-sakf, le toit, la voûte. et qu'il a harmonieusement formé. Regardez le ciel qui est parfaitement formé, dans lequel vous ne verrez ni fissure, ni cassure, ni rien. Il est parfaitement construit par Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. Et pour ce ciel, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la nuit obscure et il a rendu le jour clair et lumineux. Et ainsi, l'être humain, il peut se reposer dans la nuit et travailler dans la journée. Il ne faut pas inverser cela. Ensuite, il a dit وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Et la terre, suite à cela, il l'a étendue. Il l'a étendue. Donc nous, quand on voit la terre, on la voit comment? Toi, quand tu es là où tu es aujourd'hui, et tu regardes la terre, comment tu la vois? Étendue ou tu la vois ronde?
Plate.
Tu la vois plate. Ahsant.
Plate.
Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle de ce que nous on voit. Parce qu'il y en a qui disent non, ça c'est une erreur. Pourquoi? Ils disent parce que la terre est ronde. Même si on dit que la terre est ronde, ça c'est d'un point de vue externe à la terre. Quand on la voit de l'extérieur. Amma de la terre, on la voit toujours plate. Donc Allah, il nous parle de cela. Ce que nous, on voit. Pas ce qui est vu d'un satellite ou l'autre. D'accord? Donc, il n'y a pas de contradiction. Et c'est ainsi que l'être humain peut tirer profit de cette terre. Imaginez si la terre était ronde pour nous, de là où on est. On va tomber, ou là, il va arriver. Et on ne pourra pas profiter de cette terre comme on peut profiter d'elle aujourd'hui de cette manière. C'est pour ça que Allah Azzajal nous a rappelé ce bienfait sur nous. Et de cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir ses eaux et ses pâturages. Les eaux qu'on a sur terre, que ce soit dans les puits, dans les sources, dans les mers, dans les rivières et les fleuves, partout. Cette eau dont on a besoin et qui est indispensable pour notre survie. Donc il a fait sortir de cette terre les eaux et les pâturages comme nourriture pour nos bestiaux et nos animaux et également les légumes et les fruits pour l'être humain. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. Et dans cette terre, il a planté solidement des montagnes. Ces montagnes qui permettent de stabiliser la terre. Et les montagnes pour la terre fonctionnent comme des clous. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, dans des versets, il les appelle Awtad. Awtad. Comme des clous qui permettent de stabiliser la terre. Et ça, c'est démontré scientifiquement aujourd'hui. Que sans les montagnes, les couches terrestres ne seraient pas stables. Elles sont stabilisées justement par la montagne. Parce que la montagne, elle a une partie supérieure que vous voyez et elle a une partie à l'intérieur de la couche terrestre que vous ne voyez pas. Et en général, cette partie qui est enfoncée dans la terre, elle est plus grande que la partie que vous voyez à l'extérieur. Et c'est ça qui permet le maintien et la stabilisation de la terre. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla dit ici. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Tout ce qui a été cité, ce sont des bienfaits dont vous jouissez, vous, ainsi que vos bestiaux. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Donc après avoir rappelé, et après avoir donné des preuves fortes et irréfutables sur la résurrection, et après avoir rappelé ces bienfaits, Allah nous rappelle ici l'arrivée de la fin des temps. Il a dit فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Lorsque se produira le cataclysme majeur, le cataclysme majeur, ce qui est voulu par ça, Tammatul Kubra. Qu'est-ce qui est voulu par Tammatul Kubra? Yallah. Il faut être réactif. Naam.
La fin du monde.
La fin du monde dernier, le jour de la résurrection. Ahsant. La fin du monde et ensuite le jour de la résurrection qui vient après la fin du monde. La fin du monde, c'est ça. Yom al-Qiyama, c'est le jour de la résurrection. Donc il dit, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Ce jour-là, qu'est-ce qui arrivera à chacun d'entre nous quand arrivera le jour de la résurrection? Allah dit, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Le jour où l'homme se souviendra de ses œuvres. Chacun de nous, il va se rappeler de ce qu'il a fait comme bien et de ce qu'il a fait comme mal. Et tout sera inscrit et rien ne sera oublié. Et chacun aura son livre dans lequel il y aura tout ça qui est écrit. Taïb. Et suite à cela, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَيَّرَى. Le feu de l'enfer, le brasier, apparaîtra clairement à tous. Tous verront, tous les gens vont voir le feu de l'enfer. Et les gens se diviseront ce jour-là en deux catégories. Fa'amma, et ça vient souvent dans le Coran, les deux catégories des gens. Fa'amma mantara, yani les deux catégories, c'est les croyants et les mécréants. Les gens qui vont rester éternellement en enfer et les gens qui vont rester éternellement au paradis. Et dans la catégorie de ceux qui vont rester éternellement au paradis, il y a une partie qui vont aller en enfer dans un premier temps pour aller ensuite au paradis. Ce sont des gens qui ont tawhid mais qui auront fait des péchés et à qui Allah n'aura pas pardonné. Taïb. Donc la première catégorie, c'est les gens de l'enfer. Et regardez leur description. Et c'est ça parmi les enseignements qu'on doit tirer ici. C'est de voir comment ces gens étaient dans Dunya pour ne pas leur ressembler. Allah il les décrit en disant Fa'amma man para, celui qui aura vécu dans la rébellion. Il se rebelle contre les textes, contre la religion d'Allah, contre la volonté d'Allah. Quand Allah il lui ordonne de faire une chose, il ne la fait pas. Quand Allah il lui interdit de faire une chose, il la fait quand même. Et quand il est touché par une épreuve, il ne patiente pas. Il se rebelle contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela est aussi une autre description de ces gens-là. Allah dit « وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا » et qui préfère cette vie à celle de l'au-delà. Tu trouves, il ne vit que pour Dunya. Il ne vit que pour Dunya. Il ne fait rien pour l'akhira. Alors que l'être humain doit être à l'inverse. L'être humain doit œuvrer d'abord pour Dunya. Et l'akhira doit œuvrer d'abord pour l'akhira, pour le paradis. La vie dans le paradis, elle est éternelle. Et la vie dans Dunya, elle est courte. 60 ans, 70 ans, jusqu'à 100 ans. Donc elle est courte comparée à l'éternité. Donc l'être humain, intelligent, doué de bon sens, et qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il va œuvrer plus pour l'au-delà. Et il ne va pas négliger sa part de cette dunya. Il va profiter de dunya, mais tout en œuvrant pour l'au-delà, pour sa demeure éternelle. Qu'Allah nous accorde à tous le paradis, qu'on soit parmi les gens de l'Firdaus al-A'la. فَإِنَّ الْجَحِيمَ. Donc celui-là, dont Allah nous a cité deux caractéristiques dangereuses. La première, c'est la rébellion contre la volonté d'Allah, sa volonté religieuse et sa volonté universelle. Et la deuxième caractéristique, c'est de faire passer dunya et l'amour mondain avant l'amour de l'akhira. Donc cela, quel est leur sort? Il a dit, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Alors leur seul refuge sera la fournaise, le feu de l'enfer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala est passé à la deuxième catégorie. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Et ici aussi, ce qui est très important, c'est d'observer les caractéristiques des gens du paradis et de chercher à les acquérir et les avoir dans la vie de tous les jours. C'est comme ça que le croyant, il tire profit de le Coran. Le Coran n'a pas été révélé seulement pour que tu le mémorises. Le Coran a été révélé tout d'abord pour que tu le médites et que tu le mettes en pratique. Et sa mémorisation t'aide dans sa compréhension et dans sa mise en pratique. Pour ça, la mémorisation, elle a une grande valeur parce qu'elle t'aide dans ce sens-là. Amma, si tu restes à mémoriser le Coran en entier et tu ne le mets pas en pratique, alors ça, c'est des arguments contre toi et non pas des arguments en faveur de toi. Taïb. Wa amma man khafa maqama rabbihi. Donc, quant à celui qui redoute de comparaître devant son Seigneur, celui qui a peur du jour où il va rencontrer Allah. Et cette peur doit le pousser à faire beaucoup de bien. Quand toi, tu as peur de l'arrivée d'un tremblement de terre ou d'une forte tempête ou d'un ouragan, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester assis les bras croisés et attendre le moment où il va arriver, il va tout prendre? Non. Tu vas travailler. Tu vas faire des causes pour être préservé. Sauf si tu es un fou. Tu apprends que dans 24 heures, il y a un ouragan qui arrive là où tu es et tu restes assis, tu l'attends. Tous, on va dire que celui qui fait ça, qui agit de cette manière, c'est un fou. De la même manière, celui qui a peur d'Allah et qui ne fait pas les causes pour avoir sa satisfaction et son agrément et échapper à son châtiment, c'est un fou. Donc si vraiment tu as peur d'Allah, alors tu dois faire ce qu'il aime et t'éloigner de ce qu'il interdit. C'est ce qu'on appelle la piété, at-taqwa. At-taqwa, c'est de faire ce que Allah t'a ordonné et de t'écarter de ses interdits. Et la chose la plus importante dont Allah que Allah t'a ordonné, c'est quoi? C'est quoi la plus grande obligation? Et l'obligation la plus importante?
La prière?
La salat?
L'adoration d'Allah.
L'adoration d'Allah? Encore un terme plus précis.
At-tawhid.
At-tawhid, ya salam. Ya salam. Ya salam. At-tawhid, l'unicité d'Allah, d'adorer Allah seul sans rien lui associer. Et c'est quoi le péché le plus grave?
Ash-shirk.
Yani, ça ne doit pas rester que des informations que vous avez apprises. Ça doit se traduire dans votre vie. Il faut que tu saches que la chose la plus importante, l'obligation la plus importante, c'est tawhid. Et le péché le plus grave, c'est ash-shirk. C'est plus grave que de boire de l'alcool, que de tuer, que de faire tous les péchés. De faire shirk. C'est-à-dire adorer autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Invoquer autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, wa amma man khafa maqama rabbihi. Donc ça, c'est la première chose. Il redoute le jour où il va comparaître devant son Seigneur. Et c'est quoi la deuxième chose? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Et qui aura su dominer ses passions. C'est-à-dire, il ne va pas suivre ses passions. Tous, on a des passions. D'accord? Tous, on aime des choses. Lakin, il faut que tu te contrôles. Si ces envies vont à l'encontre de ce que Allah te dit, il faut que tu les délaisses. Yani, y a beaucoup de garçons qui aiment jouer au foot. Ça, c'est une envie. Il n'y a pas de mal en cela. Lakin, si pour jouer au foot, tu vas délaisser la salat, tu ne vas pas la faire dans 100 ans, tu vas découvrir une partie de ton corps que tu dois couvrir, alors, faut faire attention. Il n'y a pas de mal à pratiquer le foot, par exemple, et à faire du sport d'une manière générale. Au contraire, faire du sport en islam, c'est une chose demandée. C'est demandé pour les garçons comme pour les filles. Là, pour les garçons, ils peuvent s'inscrire dans un club ou là, quelque chose comme ça. Et pour les filles, en général, le mieux, c'est d'avoir du matériel à la maison et de faire du sport tous les jours. 5-10 minutes de sport tous les jours. Ça, c'est une bonne chose pour entretenir sa santé et pour rester en forme, pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le sport, ça te donne yani, une force physique et ça te donne un mode de vie sain. C'est pour ça qu'ils disent en arabe, ils disent Al-aqlu salim fil jismi salim. En général, les gens qui réfléchissent bien, c'est des gens qui sont bien physiquement et qui s'entretiennent physiquement. Lakin, le sport, c'est un moyen, c'est pas un objectif ou une fin. Tu veux faire carrière dans le sport ou la hachi? Non, ça, c'est, en général, c'est mauvais. Car ça va t'éloigner de la religion d'Allah. Lakin, faire du sport tous les jours, 5, 10 minutes, ça te prend comme ça, jouer, hadi, c'est très très bien. C'est demandé en islam. Mais le faire dans un cadre raisonnable et dans un cadre dans lequel il n'y a pas de péché. D'accord ? Donc celui qui a regroupé ces deux caractéristiques, il redoute le jour où il va comparaître devant Allah. Et donc, par conséquence, il va faire ce que Allah aime et délaisser ce que Allah déteste. Imagine quelqu'un te menace, te dit, voilà, on va se rencontrer dans un mois. Et tu sais que tu vas le rencontrer dans un mois avec certitude, tu n'as pas le moindre doute. Et cet homme, il a une armée derrière lui. C'est un homme très très fort, très puissant. Il dit, dans un mois, on va se retrouver. Alors, ne fais pas ça, et ça, et ça. Et fais ça, et ça, et ça. T'imagines si tu fais l'inverse de ce qu'il t'a dit. Et au bout d'un mois, tu le rencontres. Et comment tu vas te considérer? Comme quelqu'un qui n'a pas de bon sens. Tu sais qu'il va exécuter ses menaces. Alors, c'est comme ça qu'on doit être vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se conforme à sa religion. Et à chaque fois qu'on fait une erreur, on lui demande le pardon. Et on continue à faire les efforts pour se rapprocher de lui. Subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a regroupé les deux et qui a su contrôler ses envies et ses passions et les orienter dans ce que Allah aime, celui-là, qu'est-ce qu'il aura ? فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Alors celui-là, il aura pour ses jours éternels les jardins du paradis. Et cette sourate, elle termine par le rappel d'un point très important qui est la fin des temps. Il a dit يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّنَا مُرْسَى. Il t'interroge sur l'heure, yani l'heure de la fin des temps, sur le jour de son avènement. Quel jour arrivera la fin des temps? Qui peut répondre? Quel jour?
Le vendredi.
Non.
Le vendredi.
Ça arrivera un vendredi, mais quelle date? Ou laquelle année? Le vendredi de quel mois? De quel? Non.
On sait pas.
On sait pas. Excellente réponse. Excellente réponse. C'est pour ça que Allah a dit à son prophète, regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Fima anta min dhikraha. Comment pourrais-tu, toi, les informer de cet événement? Car toi, tu ne le connais pas. Le messager d'Allah ne le connaît pas. Et vous savez, dans le hadith Jibril, quand Jibril a interrogé, Jibril au sujet de la fin des temps, quand est-ce qu'elle arrivera? Il lui a dit, ni moi, ni toi, nous la connaissons. Ça, c'est uniquement Allah qui connaît quand est-ce qu'arrivera la fin des temps. Nous savons que ça arrivera un vendredi, effectivement. Mais nous ne savons pas quand. Ensuite, Allah je dis, « Ila rabbika muntaha ». Yani, sa science relève, yani, de la science, son avènement relève de la science d'Allah. Seulement, il est l'unique à savoir quand est-ce qu'elle arrivera. Par contre, ton rôle, c'est pas de les informer quand est-ce qu'elle arrivera, car tu ne le sais pas. Mais ton rôle, innama anta mundhiru man yakhsha, c'est t'es chargé d'avertir ceux qui en redoutent l'avènement, afin qu'ils se préparent pour ce jour-là. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Le jour où ils en seront témoins, le jour où elle arrivera, il leur semblera n'être resté sur terre que l'espace d'une soirée ou d'une matinée. Quand arrivera la fin des temps, les gens vont avoir l'impression qu'ils ne sont restés en vie que pendant une courte durée, une matinée ou une soirée. Et ça, ça nous arrive. Ça nous arrive à nous déjà. Regardez, Allah, il nous donne des phénomènes similaires pour qu'on sache que ça, c'est des réalités. Regardez, l'un d'entre nous, par exemple, il a 30 ans, il a 20 ans, il a 10 ans, 15 ans. Lakin, quand il se rappelle, yani, quand il revient en arrière, il a l'impression que ça fait très peu de temps. Yani, c'est passé tellement rapidement. Regardez un autre phénomène qui va vous parler plus encore. Là, dans quelques jours, c'est le Ramadan, n'est-ce pas? Regardez la durée qui est passée entre le dernier Ramadan et ce Ramadan. Tu as l'impression qu'il y a quelques jours seulement, tu jeûnais, tu faisais Qiyam al-Layl, tu faisais Tarawih, tu prenais Suhoor, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, la vie, elle passe très vite. Là, ce qui va rester, c'est uniquement les choses qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà par rapport à cette sourate. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Donc, est-ce que vous avez une question par rapport à ce qu'on a vu? Avant qu'on parle d'un sahabi, aujourd'hui on va parler de Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Est-ce que vous avez une interrogation au sujet de ce que nous avons vu là? Vous avez tout compris? Non, tfadl.
Aywa. Est-ce que quand il pleut vraiment, vraiment beaucoup, est-ce qu'on est obligé d'aller au masjid?
S'il pleut, comme tu dis, non, c'est pas obligatoire. Tu peux faire salat en groupe avec les membres de ta famille chez toi. Wafika barakallah. Taïb, aujourd'hui, on va parler d'un très très grand compagnon qui fait partie des 10 annoncés au paradis et qui est parmi les premiers en islam, les premiers qui sont entrés en islam. Il est même rapporté que cet homme est entré en islam le premier jour où Abu Bakr est entré en islam et qu'il était le troisième en islam ou le septième. En tout cas, il fait partie des 10 premiers qui sont entrés en islam et des 10 qui sont annoncés au paradis. Donc, c'est un compagnon. Quand vous entendez qu'il fait... tous les compagnons, on les aime, sans exception. Tous. Et tous, on sait que personne ne peut atteindre leur rang. Tous. Lakin, il y a des degrés parmi les compagnons. Et les meilleurs des compagnons, c'est les 10 annoncés au paradis. Donc quand on parle des 10 annoncés au paradis, rappelez-vous que là, on est en train de parler de l'élite de l'élite. Les meilleurs des meilleurs. Et les 10 qui annoncés au paradis, ils sont tous parmi les premiers qui sont entrés en islam et qui ont entouré le prophète alayhi salam et qui l'ont soutenu et qui ont tout sacrifié pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par leur cause que cette religion nous a été transmise dans son authenticité et dans sa beauté. Radiyallahu anhum wa ardhahum. Donc on doit les aimer. Et le minimum de notre devoir vis-à-vis d'eux, c'est de connaître un minimum de leur biographie, de connaître un minimum de leur biographie et de les aimer et de les prendre comme modèle et exemple. Car eux, ils ont pris comme modèle et exemple le prophète alayhi salatu wassalam. Donc suivre les compagnons revient à suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Radiyallahu anhum wa ardahum. Donc, Abu Bakr Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum, il fait partie des 10 annoncés au paradis et il fait partie des premiers qui sont entrés en islam. Il est également un des 6 que Omar ibn al-Khattab a désigné pour que son successeur soit un d'entre eux. Et comme il a dit, c'est les 6, quand le Nabi Hassan est décédé, il était satisfait, c'est les 6 dont le prophète Hassan était pleinement satisfait à son décès. Radiyallahu anhum wa ardhahum. Donc il y avait parmi eux Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas, il a participé dans toutes les batailles avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il a participé dans la bataille de Badr, il a participé dans la bataille de Uhud, il a participé dans la bataille de Khandaq, il a participé dans toutes les batailles du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'a loupé aucune. Il est entré en islam jeune. Il devait avoir 17 ans à peu près, quand il est entré en islam. Et comme j'ai dit, il fait partie des premiers qui sont entrés en islam, même il est entré en islam le premier jour. Le premier jour. Et Saad ibn Abi Waqqas, pour ne pas l'oublier par la suite, c'est lui qui a dirigé la grande bataille des muslimines contre les Perses. La grande bataille qu'on appelle Al-Qadisiyya. La bataille de Al-Qadisiyya. Une très très grande bataille qui était décisive et qui a fait tomber l'empire perse. L'empire des Perses ou l'empire persan. Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, c'est le premier de cette communauté à avoir lancé une flèche fi sabilillah, dans le sentier d'Allah. Naam. Car le prophète alayhi salam a désigné un ensemble de compagnons. Le prophète alayhi salam a désigné un ensemble de compagnons pour aller intercepter une caravane commerciale de Quraysh. Et à leur tête, il a mis Ubayd ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Et ils disent que c'est la première excursion militaire que le prophète alayhi salam a envoyée. C'est la première. Pour la première fois, le Nabi alayhi salam à Médine, il a envoyé cette excursion militaire pour intercepter une caravane commerciale de Quraysh. Car Quraysh avait pris les biens des croyants à Mecca et ils leur ont pris leurs biens. Ils leur ont empêché de les emmener avec eux dans leur émigration. Donc, Nabi al-Sallam a mené plusieurs campagnes et a envoyé plusieurs excursions militaires pour intercepter leur caravane. Et celle-là, ils disent que c'était la première, la toute première. Et ça a été envoyé dans le mois de Shawwal, dans la première année de l'émigration. Et il y avait dans ce groupe de compagnons qui sont sortis, dont le nombre était de 70 ou 80, entre 70 et 80, ils sont sortis, il y avait parmi eux Saad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Ils sont sortis effectivement, et ils ont affronté la caravane commerciale de Quraysh. Ils ont affronté cette caravane, dans laquelle il y avait Abu Sufyan ibn Harb. Il était encore mécréant ce jour-là, mais il n'y a pas eu vraiment de combat. Mais ils ont échangé des tirs de flèches. Et Saad ibn Abi Waqqas, c'est le premier qui a lancé une flèche dans la première rencontre entre les croyants et les mécréants. Donc ça, c'est parmi ses mérites, radiyallahu anhu. Et ça s'est terminé sans bataille. À part cet échange de flèches. Et ça fait partie de ses mérites. C'est le premier qui a lancé une flèche dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était très fort dans cela, au point où ils disent qu'il ne ratait jamais sa cible. Radiallahu anhu. Taïb. Donc, Saad ibn Abi Waqqas, il est connu par Saad ibn Abi Waqqas, car son père est surnommé Abu Waqqas. Et le prénom de son père, c'est Malik. Donc lui, c'est Saad ibn Malik, radiyallahu anhu. Et sa kunya, c'est Abu Ishaq, car il avait, son fils aîné s'appelait Ishaq, Abu Ishaq, radiyallahu anhu, warda. Donc c'est un oncle maternel du prophète, alayhi salam, car il est de la même famille que la mère du prophète alayhi salam, Amina bint Wahb al-Zuhriya. Lui aussi il est Zuhri. Il est de la même tribu que la famille du prophète alayhi salam. C'est pour ça que Nabi alayhi salam, il se vantait en disant: voici mon khal, mon oncle maternel. Que l'un d'entre vous me montre son khal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un khal avec autant de mérite que le mien? Et ça montre également le mérite de Saad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, c'est un homme qui n'était pas très grand de taille. Qui n'était pas très grand de taille. Et qui avait un peu de poids, radiallahu anhu, et qui avait une forte chevelure, radiallahu anhu. Et de la couleur de sa peau, elle était plutôt mate. Elle était plutôt mate. Radiallahu anhu wa arda. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, il a une histoire remarquable par rapport à son entrée en islam. Quand il est entré, Sa'd était très très aimé par sa mère. Sa'd radiallahu anhu était très très aimé par sa mère. Et elle le gâtait, elle s'occupait énormément de lui, elle l'aimait énormément. Et lui aussi, il aimait énormément sa mère. Et quand il est entré en islam, sa mère lui a dit d'abandonner cette religion. Et elle lui a dit, tu prétends qu'Allah, dans votre religion, t'a ordonné de m'obéir, alors moi je t'ordonne d'abandonner cette religion. Et Sa'd radiallahu anhu a refusé. Il a refusé. Et même, elle s'est dit qu'elle n'allait plus manger jusqu'à ce qu'il abandonne sa religion. Une grève. Et elle dit qu'elle allait faire une grève et ne plus jamais manger. Et Sa'd radiallahu anhu est resté ferme sur sa religion. Au point où sa mère s'est évanouie. Comme ils disent, elle est tombée dans les pommes. Après plusieurs jours, sans rien manger ni boire. Et un de ses fils, qui s'appelle Umara, lui a donné à boire, et elle a commencé à invoquer Allah contre son fils Sa'd. Et suite à cela, et ça c'était pénible pour Sa'd, radiallahu anhu, car il aimait énormément sa mère, mais l'amour d'Allah passe avant l'amour de la mère et du père. Mais ça l'a attristé, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset à son sujet, et ça l'a apaisé. Il a dit, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans le sens, si tes parents, tous les deux ou un des deux, te forcent à me donner des associés, c'est-à-dire à m'écroire et à abandonner la religion de l'islam, ne leur obéis point. Ne leur obéis pas. Lakin, garde une bonne relation avec eux et une obéissance avec, à tes parents et tiens leur bonne compagnie dans les choses bien. Ne leur obéis pas dans la mécréance, lakin, dans le reste, reste obéissant. Et ça, c'est une erreur dans laquelle tombent certains parmi nos frères et sœurs quand ils entrent en islam. Ils vont s'éloigner de leurs parents. Et ils vont même les boycotter sous prétexte qu'ils sont mécréants. Alors regardez ici. Allah, il ordonne à Sa'd de ne pas obéir à sa mère mécréante dans le mal, mais de garder une bonne relation avec elle. Et ça, il y a des devoirs vis-à-vis du père et de la mère, même si c'est des mécréants. Le devoir de l'obéissance et de l'écoute et de la bonté. Et de la bienfaisance. Et même, il est rapporté de lui qu'il a dit une parole un peu dure à sa mère. Quand elle lui a demandé d'abandonner la religion, il lui a dit, « Oh ma mère, écoute, si j'avais 100 âmes, pas une seule âme, si je meurs une fois, c'est fini. » Non, il lui a dit, « Si j'avais 100 âmes, et que chaque... Si t'avais... Non, afwan, si toi, t'avais 100 âmes, c'est pas t'as une seule âme, une fois que tu meurs une fois, c'est fini. Non, il lui a dit, si t'avais 100 âmes et que chaque âme sort, à chaque fois une âme qui sort, je n'abandonnerai jamais ma religion. Il lui a dit, alors mange et bois, car je ne vais jamais abandonner ma religion. Juste tu vas mourir pour rien du tout. Radiallahu anhu. Donc ça c'est une parole un peu dure. Lakin, ça exprime sa fermeté et son attachement à sa religion. Et c'est pour ça, Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset, qu'il faut garder une bonne relation avec les parents, même s'ils t'ordonnent de faire le péché. Tu ne fais pas le péché, lakin tu gardes une bonne relation. Et tu leur parles doucement, et gentiment, et avec respect, et avec amour, et ainsi de suite. Et donc, Sa'd radiallahu anhu était un homme extrêmement brave, extrêmement courageux, et il l'a démontré dans beaucoup de batailles avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et même après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, radiallahu anhu wa ardah, notamment dans la bataille de Uhud, où il est rapporté que très peu de compagnons sont restés à côté du prophète, alayhi salatu wassalam, à le protéger. On a parlé déjà de Talha, et il y avait aussi Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, au point où certains disent qu'il ne restait que les deux autour du prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'Allah l'agrée et qu'Allah agrée tous les compagnons de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et Sa'd, je vais terminer par cette anecdote qui est arrivée à Sa'd, car Sa'd a été désigné par Omar radiallahu anhu comme amir, comme responsable, comme gouverneur sur des régions. Et certains de ces régions se sont plaints de Sa'd radiallahu anhu. Ils l'ont accusé par des accusations. Omar radiallahu anhu, il savait que ces accusations, c'est pas possible que ce soit vrai. Car il connaît qui est Sa'd ibn Abi Waqqas. Lakin, Omar reste le gouverneur. Reste le gouverneur et il doit faire les vérifications. Et il ne doit pas se contenter de ce qu'il connaît, lui, de Sa'd, radiallahu anhu. Il ne s'est pas contenté de ce qu'il connaît, lui, de Sa'd. Il sait que Sa'd, sa valeur parmi les compagnons, c'est un des premiers dans l'islam. Et parmi les accusations qu'ils ont rapportées à Omar radiallahu anhu, que Sa'd faisait mal la salat. Il les dirigeait dans la salat, il la faisait mal. Et ça, c'est étonnant. Comment Sa'd, il fait mal la salat? C'est un des premiers dans l'islam. Radiallahu anhu. Et quand Omar l'a convoqué, il lui a dit, voilà ce qu'ils disent. Ils disent que tu ne fais pas bien la salat. Il lui a dit, par Allah, la salat que je fais, c'est la salat la même que la salat du prophète, alayhi salatu wassalam. Je ne rajoute rien et je ne diminue rien. Je fais la salat exactement comme le Nabi, alayhi salam, la faisait. Et il a décrit comment il faisait sa salat. Et Omar, par la suite, il a envoyé des hommes dans cette région-là pour rapporter des informations au sujet de Sa'd de différentes sources. Regardez comment le dirigeant équitable. Donc il sait très bien qui est Sa'd. Sa parole suffit. C'est un homme, sa parole, elle suffit. Lakin, regardez comment il apprend au gouverneur après lui. Même si tu connais que le bien, ça se peut qu'il y a quelque chose. Donc, c'est pour ça que les vérifications sont nécessaires. Et donc, il a envoyé des gens. Et tous, ils ont rapporté que du bien de Sa'd radiallahu anhu. Et que c'était un responsable équitable. Et sa salat était comme la salat de Nabi alayhi salam. Donc là, Omar radiallahu anhu a compris que c'était une personne, yani, qui n'était pas satisfaite de Sa'd. Et qui était injuste envers lui. Et ce n'est pas un sahabi, c'est un tabi'i. Jamais ceci n'arrivera de la part d'un sahabi. Et donc, parmi ce que cet homme a dit au sujet de Sa'd radiallahu anhu, il a dit que quand il y avait une bataille, il ne sortait pas avec l'armée. Donc il envoie des armées, lui il ne sort pas avec eux. Et la deuxième chose qu'il a dit, et quand il répartissait les butins, il ne les répartissait pas d'une manière équitable. Il favorise les gens de sa famille. Et le point comme quoi il fait mal la salat. Et quand Sa'd radiallahu anhu a su cela, cette injustice de la part de cet homme, il s'est contenté de faire dua contre lui. Et Sa'd radiallahu anhu, c'est un homme dont le dua était exaucé. Il a demandé au prophète pour que ses dua soient exaucés. Il lui a dit, Ya Sa'd, atib mat'amak, tustajab da'watuk. Mange le halal, tes invocations seront exaucées. Et Sa'd, il était connu pour l'exaucement de ses invocations. Donc, il s'est contenté d'invoquer Allah contre cet homme. Il a dit, « Oh Allah, si cet homme ment et qu'il a dit ce qu'il a dit que par ostentation et injustice et mensonge, alors fais-le vivre longtemps et garde-le dans la pauvreté et expose-le aux tentations et aux troubles. » Et c'est ce qui est arrivé à cet homme. Cet homme, il a vécu jusqu'à arriver à un âge très avancé. Il a vieilli beaucoup. Et en plus, il était très pauvre. Il faisait la manche, il demandait aux gens l'aide. Et encore, il était touché par le fitan. Yani, l'invocation de Sa'd radhiyallahu anhu a été exaucée, ces trois invocations. Il était touché par le fitan. Yani, ils disent que ce vieillard, même arrivé à un âge très âgé, yani, il allait, yani, comme ils disent, il allait draguer les filles. Wal'iyadu billah. Et quand les gens lui disaient, mais t'as pas honte de faire cela, qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, je suis un homme qui a été touché par l'invocation de Sa'd, radiyallahu anhu. Fa nas'alullah salam al-afiyah. Voilà quelques informations au sujet de Sa'd radiallahu anhu. Sa'd radiallahu anhu est décédé en l'an 55 de l'Hégire. 55 de l'Hégire. Et il fait partie, il est le dernier émigrant qui est resté en vie. Et donc le dernier émigrant qui est décédé. Radiallahu anhu. Il est entré, comme on l'a dit, en islam à l'âge de 17 ans ou de 19 ans. Et il est décédé en l'an 55 de l'Hégire. 55 de l'Hégire. Donc il avait plus de 70 ans quand il est décédé. Radiallahu anhu wa arda. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.